Bonjour et bienvenue à Regard Croisé avec Fulgence Blas et
Arlette Farah. Bonjour Fulgence.
Bonjour Arlette. Ouais, j'étais en train de...
Ça va ?
Je déplaçais un peu le micro d'à côté parce que j'entendais un écho. On dirait qu'il y a voilà, un genre d'écho qui rentre dans mes oreilles. Oui, ça va bien, merci. Et toi ?
Oui, on a une belle émission aujourd'hui.
Une belle émission aujourd'hui. Voilà, tout plein d'invités. Deux invités en première partie d'émission. Qu'est-ce que ton invité, il va nous parler de quoi ? Qui nous a invité,
alors,
Arlette ?
Moi, en deuxième partie d'émission, on aura Pierre Vachon, qui est porte-parole, membre du conseil d'administration et cofondateur de la SAMS, S-A-M-S, qui est la Société pour les Arts en Milieu de Santé.
Société pour les Arts en Milieu de Santé. Waouh, ok, j'ai bien hâte de découvrir ce qu'il va nous raconter. Alors moi, de mon côté, j'ai deux invités en même temps qui collaborent. Yannick Noiseau, qui est professeur au Yannick Noiseau, qui est professeur au département de sociologie de l'Université de Montréal et chercheur principal pour le groupe de recherche interdisciplinaire sur l'emploi, la pauvreté et la protection sociale, le GIREPS. Et le deuxième invité, Serge Petitclerc, qui est coordonnateur porte-parole du collectif Point Québec sans pauvreté. Alors, on va avoir les deux en même
temps.
Oui. C'est la raison pour laquelle j'ai invité les deux en même temps pour
c'est
qu'on puisse. L'autre fait des recherches, l'autre s'occupe des porte-parole de l'organisme, ils travaillent ensemble. On va avoir les détails un peu plus tard.
Et on part en musique ?
En musique, bien sûr, avec un Français que j'ai découvert il y a une décennie. Ouais, tu vas me dire, il y a des Français qui aiment trop le reggae. Bah. Naaman, pour ceux qui s'intéressent, qui aiment la musique reggae, le connaissent bien à travers le monde. Naaman, Tomorrow.
Up at night, left my sleeping baby. I said something must not be right, 'cause I don't want to leave her away. We're walking in line, wearing uniforms now. I'm giving you my sweet lifetime just to make you big will turn. Oh, tomorrow, set charting for game. I'm going right now, 'cause I'm tired of playing games. I got to be myself, and not the one you want me to be right now. So if I got to build back my place, stone after stone, me go do it. Tell the truth to the people out there, our life is a gift from creation. Give you life to the present day, don't sell it to the big corporation. Jack, my brother, calm down and hold your position. Hey, I took it up, we gonna walk the talk. We gonna break away the chains of oppression. I said, full pride, they won't put in my brain, but I won't give it a chance to be. Oh, oh, my soul knows off a market work. Me not go forget what me got to leave. No bother thing, they might go fix where. Put the same lamp to them, try a break without. Rise up my fire, let it conquer me, and good God carry me home. Got to do my soul work. Want to know the reason why me came to earth. Soul work, I gotta make it work. Tell the truth to the people out there, our life is a gift from creation. Give you life to the present day, don't sell it to the big corporation.
Woke up with the morning lights with my pretty baby. Gratitude has covered my life, and I know it will cover my day. Ay. The garden grows fine, non-uniform at all. The more that I give of mine is the more I get in return.
Oui, Naman, Tomorrow, j'adore ce jeune de Dieppe là. Martin Mussard, son vrai nom d'ailleurs. De... Oui, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, j'étais
oui, il ne chante invités. Presque en français, en anglais, pardon. Il a l'accent, il a vécu en Jamaïque aussi, c'est pas évident quoi. Alors, on a nos deux invités déjà au téléphone. Professeur Yannick Noiseux, qui est professeur au département de sociologie de l'Université de Montréal et chercheur principal pour le groupe de recherche interuniversitaire et interdisciplinaire sur l'emploi, la pauvreté et la protection sociale, JIREPS. Et puis Serge Petitclerc, qui est coordonnateur et porte-parole pour le collectif Québec sans pauvreté. Bonjour à vous deux, chers messieurs.
Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour de Québec.
Voilà, bonjour de Québec, monsieur Petitclerc. Alors, merci d'avoir eu le temps d'être avec nous en studio, même si ça se passe au téléphone. C'est comme si on était ensemble ici en studio. Et on va parler un peu du beau travail, du grand travail que vous faites pour les gens en situation de pauvreté. On va commencer par le chercheur principal, Yannick Noiseux, bien sûr, qui va nous présenter d'abord le JIREPS.
Ouais, ben merci d'abord de prendre le temps de nous donner un peu de temps de parole pour parler de cette recherche-là.
Vous faites un travail admirable. Là, on a besoin de le savoir, de faire découvrir par les auditeurs.
Ouais, ben c'est quand même pas toujours facile de passer le message dans les médias, donc je vous remercie beaucoup. Peut-être juste vous dire quelques mots sur le JIREPS, comme vous l'avez dit, donc c'est un nom à n'en plus finir, mais grosso modo, on fait de la recherche sur l'emploi, la pauvreté et la protection sociale. On est un groupe de plusieurs chercheurs d'universitaires, donc il y a des gens de l'Université de Montréal, vous l'avez dit, mais de l'UQAM, de l'Université du Québec en Outaouais, de McGill, de l'Université Laval, des gens à l'UQTR à Trois-Rivières aussi. Donc, je voudrais aussi dire que cette recherche-là, je vais me faire le porte-parole aujourd'hui, c'est une recherche qui a été faite en collaboration avec, on est plusieurs chercheurs sur le dossier, donc il y a Marie-Pierre Boucher, Diane Gagné, il y a Marie-Josée Dupuis aussi, du collectif pour un Québec sans pauvreté comme Serge, et Anthony Desbiens. Donc voilà, on fait de la recherche là-dessus, sur la question du travail, de la pauvreté, des politiques publiques, sur l'aide sociale, sur la question du chômage, par exemple, les systèmes de protection, là, comme la CIU dont on a parlé tout l'été.
Oui.
Donc on fait ça, puis on fait ça généralement sur le mode partenarial, donc avec des partenaires, des organismes partenaires dans les milieux pratiques.
Oui.
Notamment dans le cadre de cette recherche-ci, c'était avec le collectif pour un Québec sans pauvreté. Donc, c'est pour ça que je suis très content d'être avec Serge pour présenter les principaux résultats aujourd'hui.
Oui, j'adore ça. Serge, monsieur Petitclerc. Allô?
Oui,
est-ce qu'il est là? Le monsieur de Québec?
Oui.
Alors, présentez-nous un peu le collectif pour un Québec sans pauvreté qu'on vient de le faire, monsieur Noiseux, concernant le groupe de recherche interuniversitaire.
Oui, en direct dans mon salon. Écoutez, le collectif, c'est quoi? C'est pas compliqué. C'est une organisation qui existe depuis à peu près 20 ans, un peu plus de 20 ans. C'est une coalition qui regroupe, dans le fond, toutes sortes d'organisations nationales et des collectifs régionaux. Dans le fond, des gens qui travaillent, comme le nom l'indique, pour un Québec sans pauvreté, des gens épris de justice sociale, d'égalité, de lutte aux préjugés, des organisations qui veulent faire des pressions politiques sur le gouvernement pour améliorer les politiques publiques en faveur des personnes en situation de pauvreté. Dans le fond, qu'on privilégie l'amélioration des conditions de vie des plus pauvres sur l'amélioration des conditions de vie des plus riches.
Oui.
Et le faire avec les personnes qui la vivent, justement, la pauvreté. De là, l'intérêt d'une recherche comme celle qu'on a fait avec le JIREPS, où on était voir les personnes pour voir qu'est-ce qu'ils pensaient de la situation, pour essayer de combattre cette espèce de vision un peu folle où on considère que les personnes d'assistance sociale sont confortables dans leur situation et qu'elles ne veulent pas retourner sur le marché du travail, ce qui est totalement faux.
Oui, oui, on les accuse de paresseux, on les traite de tous les noms d'ailleurs. Oui, allez-y.
Oui, et effectivement, c'est ce qu'on a trouvé le plus intéressant de travailler avec les amis du GIRES, c'est de faire en sorte que nous, on porte un discours depuis longtemps, je dis nous, un nous très inclusif avec toutes sortes d'organisations locales, régionales, nationales, qui travaillent avec les personnes à assistées sociales, où on a toujours dit depuis des années que ce n'est pas tant que les gens ne veulent pas retourner sur le marché du travail, qu'il y a des obstacles à retourner sur le marché du travail, et un des principaux obstacles, c'est justement le programme, la loi d'aide sociale qui pose plein d'embûches.
Oui.
Et on ne tient pas compte de la réalité des personnes assistées sociales
et de leur
empêchement à retourner sur le marché.
Oui, et là, je me retourne à M. Noiseux. M. Noiseux, est-ce que vous pouvez nous faire un peu un résumé succinct quand même du rapport? J'ai vu le rapport, c'est un rapport de 84 pages, si je ne me trompe pas.
Pas les 84 pages, hein?
Inquiétez-vous pas, je ne ferai pas la lecture.
Non, je ne vous demande pas. Un résumé. Pourquoi les personnes assistées sociales ne trouvent pas d'emploi?
Voilà. Mais, par rapport à ça, je pense que c'est important de placer quand même un certain nombre de défaire un certain nombre de mythes. D'abord, là, la première chose que je voudrais dire, c'est que au Québec, en 2019, quand on a fait la recherche, il y avait 100 000 personnes au Québec qui étaient dites sans contrainte au travail, donc qui sont considérées par le programme de l'aide sociale comme étant capables de travailler. Donc première chose,
100 000.
Ce chiffre-là n'a jamais été aussi bas. Hein?
Okay.
Il n'y a jamais aussi eu peu de monde. Donc, 100 000, c'est beaucoup, mais dans l'histoire, si on regarde l'évolution, ça n'a jamais été aussi bas. Donc, ce n'est pas un problème majeur, là, si on veut, dans la mesure où, donc ce chiffre-là, il est en diminution. C'est comme le disait Serge, hein, c'est aussi une catégorie qui est la plus stigmatisée de la population.
Oui.
En enquête, les gens considèrent qu'ils sont paresseux, vous l'avez dit, etc. Et puis voilà, donc ça c'est la première chose que je voulais dire. Donc, la première chose, c'est que d'abord, le nombre n'est pas si élevé, historiquement, il n'est pas élevé.
Oui.
Et puis, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interrogé, comme le disait Serge, 44 personnes dans 8 régions du Québec.
Oui.
Une des réalités qu'on observe, hein, c'est que la plupart des personnes à l'aide sociale considérées aptes au travail sont des personnes qui vivent seules. Donc c'est une difficulté supplémentaire qu'ils ont par rapport notamment aux questions financières.
Oui.
Puis on leur a demandé de s'exprimer sur la vision qu'ils ont du travail, de leur expérience à l'aide sociale, des programmes d'insertion, parce que vous savez, de plus en plus, de ce qu'on appelle le workfare, on demande aux gens à l'aide sociale de s'embarquer dans toutes sortes de programmes d'activation qui peuvent avoir leur avantage, mais qui parfois viennent avec leur lot là, de problèmes. Et La première chose que je voudrais dire par rapport à la question qu'on se pose de pourquoi ils ne travaillent pas, d'abord, la très grande majorité veulent et souhaitent travailler. Hein. La plupart ont travaillé, souvent ils ont travaillé beaucoup. On a fait 44 entretiens, puis quand on a fini à lister le nombre de métiers ou d'emplois qui ont été faits par les gens, on en avait 300, pour vous donner une idée.
Ah ouais?
Donc, les gens ont travaillé. Et puis, de façon générale, c'est peut-être pas... Comment je pourrais dire, c'est peut-être un truc qui peut nous avoir surpris un peu, mais quand on leur demande de nous dire ce qu'ils pensent du travail, en gros, là, ils ont les mêmes idées, les mêmes valeurs que la population en général, en ce qui concerne le travail salarié.
Oui.
Donc, qu'est-ce que les gens, ils veulent? Pour eux, le travail, c'est quelque chose qui est important pour s'intégrer à la vie sociale.
Mm-hmm.
Ils cherchent un emploi dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir, se sentir utile. Ça, c'est des choses que tout le monde veut.
Oui.
Et aussi, ce qui est intéressant, peut-être particulièrement, c'est qu'ils ont une définition large du travail. Donc, pour eux, hein, que ce soit du travail rémunéré ou que ce soit du bénévolat ou du travail de proche aidant, on assimile ces expériences-là du travail. Donc, ce que je dirais aussi par rapport à l'aide sociale, c'est que l'aide sociale est tellement stigmatisante, est tellement associée à des conditions difficiles que ça contribue même à valoriser encore davantage le travail salarié. Donc, pour eux, il y en a plusieurs qui nous disaient, le travail, qu'est-ce que c'est la liberté, ça nous permet d'être des citoyens, etc. Bon, c'est vrai pour tout le monde, mais on entend, même, si vous parlez à vos amis, vos collègues, je ne sais pas si
il y a beaucoup de gens qui vont dire que le travail, c'est la liberté. Hein? Bon, oui. On a tous nos petites critiques par rapport au travail. On travaille trop, c'est fatigant, etc. Mais ce discours-là du travail qui égale la liberté, il est encore plus fort chez les personnes à l'aide sociale. Donc ça, je trouvais que c'était important là, de mentionner ça, là, que d'abord, là, ils veulent et ils souhaitent travailler. Puis ils ont un rapport au travail qui est pas mal semblable au reste de la population. Ouais. Cela étant dit, il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi ils ne travaillent pas. Ben, d'abord, hein, un des constats qu'on fait, c'est que les employeurs n'en veulent pas. Hein. Souvent, les employeurs sont pas très enclins à s'adapter à la réalité. Certains ont des problèmes de santé ou doivent pouvoir concilier travail et famille, ont des casiers judiciaires. Puis c'est souvent des choses qui font en sorte qu'on ne les choisit pas. Ils ont de la difficulté à obtenir un emploi. Et donc, être assisté social, hein, ça vient, c'est une espèce de condition sociale qui est vite repérée par les employeurs. Donc, ils voient les trous dans le CV, comment ça se fait de ne pas travailler pendant 2, 3, 4 ans. Et puis, les employeurs identifient, parce qu'on nous dit, les personnes assistées sociales nous disent que rapidement, hein, les employeurs se rendent bien compte. On peut pas cacher à l'employeur qu'on est des personnes à l'aide sociale.
Oui, on peut pas cacher, voilà. Tous les dossiers sont accessibles.
C'est ça, puis même dans le CV, on le voit, là, bon, oui. Pourquoi vous n'avez pas fini? Donc, et dès quand on est repéré comme une personne à cité sociale, bien, souvent, la prochaine étape, c'est on se fait pas offrir d'emploi. Oui. Ça, c'est un truc important, puis je vais laisser parler Serge, mais là, un autre élément...
J'aurais quelque chose à vous demander avant, pendant ce que vous étiez en train de dire, si je peux me permettre. C'est quand vous dites de chercher du travail avec les employeurs, donc les employeurs, ils sont sensibilisés au fait du handicap, au fait des gens qui viennent de pays différents, mais j'ai jamais vu de sensibilisation faite, ou en tout cas je la connais pas, pour les gens qui sortent de prison. Ça doit particulièrement dur dans ce cadre-là aussi.
Ben c'est revenu assez souvent dans les entretiens qu'on a fait. Donc les gens ont dit puis même des fois ils me disaient bon voilà, regardez-moi la face, j'ai eu une vie difficile, je sors de prison tout de suite, on me prend pas, hein. C'est rapide comme ça. Puis pour les personnes, parce que peut-être mentionner qu'on a fait un panel spécialement avec des gens issus d'immigration, puis force est de constater que pour eux, hein, les embûches, quand on est à l'aide sociale pour trouver du travail, sont un peu différentes du reste de la population. Donc, il y a toute la question du manque de reconnaissance du diplôme, on connaît ça. Oui. Mais c'est aussi, hein, c'est pas juste les diplômes, là. C'est pas juste il y a toujours l'exemple là, du médecin ou de l'ingénieur, donc qu'on n'a pas reconnu son diplôme, mais c'est aussi l'expérience de travail antérieur. Donc, je sais pas, moi, quelqu'un qui a travaillé dans une cuisine pendant des années, que ce soit, je sais pas moi, en Haïti ou au Bangladesh, par exemple, mais quand ils arrivent ici, ben ils ont de la difficulté à faire valoir qu'ils sont qualifiés, qu'ils ont de l'expérience et puis qu'ils peuvent faire le travail.
Oui, ça, c'est sûr.
Donc, il y a ça. Oui. Voilà. Si vous me permettez juste un autre truc, c'est la question du temps partiel.
Oui, oui, oui. Avant que je laisse Serge compléter ce que vous venez de dire, là, d'ailleurs.
Oui. Ah oui, allez-y, Serge, peut-être que tu vas en rajouter sur ce que
voilà. Serge?
Oui,
oui, la parole est à vous.
Oui, ben en fait, toute la recherche a été basée sur un constat général où dans les groupes comme le collectif, les groupes de défense de droits, en tout cas, tous les groupes qui travaillent avec des personnes à sécurité sociale, on est confronté à tous les jours, à toutes les semaines, sur n'importe quelle discussion, revendication, on est confronté à cette espèce de grand préjugé comme quoi les personnes qui sont à l'aide sociale ne veulent pas retourner sur le marché du travail. Et surtout que, dans le fond, si ces personnes-là sont en situation de pauvreté, c'est un choix. Ce sont des gens qui veulent profiter. Vous l'avez parlé au début de l'émission. Et nous, ce qu'on a voulu faire avec les amis du GREF, c'était d'essayer de revisiter ce discours-là, d'aller voir les gens, puis d'essayer de comprendre, de se faire valider, dans le fond, des choses peut-être qu'on savait déjà un peu, comme quoi c'est juste faux de considérer que les personnes ne veulent pas retourner sur le marché du travail, s'insérer à la société, participer à l'effort collectif de construire un Québec plus beau, disons-le comme ça. Quand on entend certaines radios, à Québec, par exemple, qui arrêtent pas de marteler que les gens, dans le fond, ils ont juste à accepter une job, ils ont juste à aller travailler au Tim Hortons, pas besoin d'un secondaire 5 pour aller travailler à Tim Hortons, c'est pas vrai. Je veux dire, quand tu vas dans des bureaux, pas des bureaux, mais dans des Tim Hortons, c'est écrit sur la porte, offre d'emploi, secondaire 5 minimum. On considère pas que la majorité des personnes à cité sociale ont pas nécessairement des diplômes, ont pas nécessairement une formation adéquate pour être même considérés comme pour pouvoir aller déposer un CV dans un certificat d'emploi.
Oui.
On considère pas que justement le fait d'être en situation de pauvreté fait en sorte que déposer des CV, ça veut dire avoir accès à Internet, peut-être envoyer des lettres, acheter du linge. T'sais, dans le fond, on considère pas ça, puis il y a une espèce de grand préjugé comme quoi les personnes justement ne veulent pas s'installer, pas retourner.
Mais Serge, quel a été l'impact de la pandémie sur l'emploi des personnes assistées sociales d'ailleurs? L'impact de la pandémie encore?
C'était plutôt dramatique pour beaucoup de personnes parce que souvent on considère que les personnes se contentent de recevoir une prestation et ne veulent pas participer. Mais il y a beaucoup de personnes à cité sociale qui s'impliquent dans des organismes communautaires ou qui ont des petits revenus d'appoint, que ce soit des revenus de travail salariés, des revenus de travailleurs autonomes ou autres. Et ces personnes-là, tout d'un coup, comme l'économie a fermé, eu un shutdown en bon français, ces gens-là ont perdu un accès à certains revenus de travail ou de revenus d'appoint. Et donc, ces personnes-là se retrouvaient avec une situation pire qu'avant. Des gens qui n'ont pas nécessairement eu accès à la prestation canadienne d'urgence pour la simple et bonne raison qu'ils n'avaient pas assez accumulé d'heures de travail
et
de revenus l'année précédente. Donc, ces gens-là se sont retrouvés d'un côté avec des revenus qu'ils ont perdus et des dépenses supplémentaires. Parce que c'est pas parce que tu es en situation de pauvreté que tu pas obligé d'acheter un masque, que tu pas obligé, des fois, de faire livrer des commandes.
On doit tous suivre les consignes sanitaires, oui.
Ils ont dû suivre les mêmes consignes qui occasionnent des frais. Donc, perte de revenus, frais supplémentaires, pas d'aide d'urgence du gouvernement pour ces personnes-là. Les gens se sont retrouvés dans des situations assez épouvantables.
Oui.
Et encore aujourd'hui, parce que des fois, on a l'impression que, il y a eu une pause cet été, mais les personnes à cité sociale, ils n'ont pas eu de pause cet été, ils n'ont pas de pause actuellement, ils n'auront pas de pause dans les deux prochains mois. Donc, ces personnes-là ont besoin d'avoir une aide. Et effectivement, ce que démontre la recherche du GIREPS, c'est que ces personnes-là, c'est pas qu'ils ne veulent pas s'intégrer, c'est parce qu'on ne veut pas les accepter aussi.
Alors, je prends la balle au bon. Quelles sont les prochaines étapes suite aux résultats de cette recherche? Et puis, qu'est-ce qui vous apparaît prioritaire comme changement à apporter? C'est à vous deux.
Je vais me permettre de rajouter un truc, puis ça me permettra de répondre peut-être à votre question aussi. Serge évoquait là, justement les gens qui ont parfois à l'aide sociale. Ironiquement, les gens qui sont à l'aide sociale, on pourrait dire, je sais que ça va être un peu polémique, sont les plus taxés de notre société.
Comment ça? Ils ne touchent pas plus que...
Quand on est à l'aide sociale, la façon que ça fonctionne, c'est que vous avez le droit de travailler quand même, jusqu'à 200 $ par mois.
Oui.
Donc, si vous travaillez 200 $ par mois, on vous laisse le garder. Mais si vous faites 201 $, le dollar supplémentaire, on vous le prend.
Okay.
202 $, on prend 2 $. Donc, pour chaque dollar qu'on fait au-delà de 200 $, on est taxé à 100 % OK? Là, je ne vais pas me perdre des considérations fiscales.
Oui.
Ce que ça veut dire, c'est qu'on a un marché du travail au Québec, et c'est vrai partout dans le monde, de plus en plus, qui est fondé sur l'emploi à temps partiel. Les gens n'arrivent pas à avoir des emplois à temps plein. Les emplois qui sont disponibles, souvent, sont à temps partiel. Et donc, par exemple, vous travaillez chez Walmart, une semaine, on vous donne 10 heures semaine.
Oui.
Là, c'est le temps des fêtes, on vous demande 40 heures. Puis arrive le mois de janvier, ça va être 15 heures semaine.
Okay.
À 15 heures semaine, au salaire minimum, on n'arrive pas. On est même en dessous de l'aide sociale.
Oh, wow.
Et donc, le problème avec lequel on se retrouve, puis ça, c'était évoqué par beaucoup de travailleurs.
Oui.
Moi, j'irais bien travailler. Mais ma santé est fragile, j'ai des enfants, etc. Idéalement, je pourrais travailler 20 heures semaine, 20-25 heures. Mais là, on ne peut pas.
On peut pas.
Si
oui.
ces gens-là mm-hmm. travaillent 20 heures, ils perdent la situation.
Ils perdent la situation. Ils nous restent
à gagner.
Ils
vont gagner moins.
Voilà.
Donc, on les empêche de travailler à temps partiel dans une certaine mesure. Donc, ça, c'est un problème. Pour moi, ça, c'est un problème qu'il faut régler.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont là, qui veulent travailler, qui pourraient travailler à temps partiel. Puis en plus, c'est ça que les employeurs, ils veulent. Le marché veut ça.
Oui.
Puis on les enferme parce qu'ils ont le choix. Soit ils prennent la chance, ils vont travailler chez Walmart, puis pendant 3 semaines, ils ont 28 heures, 30 heures, 35 heures, ça marche. Puis après ça, ils tombent à 6 heures, puis là, ils se retrouvent, je vais vous dire, carrément, là, ils se retrouvent dans une situation impossible.
OK,
donc,
OK.
Donc là, ils restent à l'aide sociale. Donc, ils sont un peu emprisonnés dans l'aide sociale.
Oui, il nous reste une minute et demie, disons, rapidement, pour les prochaines étapes suite aux résultats de cette recherche, pour que je puisse vous remercier.
Mmh. Oui. Je laisserai Serge répondre, oui.
Je vous dirais rapidement qu'on subit encore aujourd'hui les réformes, les coupes qu'on a subies dans les années 80, 90, que ce soit à l'aide sociale, à l'assurance chômage, dans les services publics d'aide à l'emploi, et il faut remettre en question l'ensemble de ces politiques-là. Et c'est justement ce qu'a révélé la COVID-19, la pandémie, c'est les trous dans le filet de sécurité sociale. Il faut remettre tout ça en question pour essayer de penser à quelque chose qui va faire en sorte que les gens vont être protégés. Si on se retrouve avec d'autres pandémies, si on se retrouve avec d'autres vagues de pandémies, pour faire en sorte que les gens puissent avoir un filet de sécurité sociale adéquat pour protéger leurs revenus, et ça, c'est essentiel. On doit le faire. On aurait dû le faire voilà, longtemps, mais la crise révèle qu'on doit le faire et que ça devient urgent de plus en plus.
Ça devient urgent. Merci beaucoup à vous
donc,
deux.
Donc ça, c'est une des suites de la recherche.
Oui.
Merci beaucoup.
Une seconde. Dans le temps de la COVID, là, quand le premier ministre Trudeau a mis sa PCU, hein, c'était 2000 par mois. Et on a dit 2000 par mois, c'est le minimum. Les gens à l'aide sociale, on leur donne 690. Okay. 3 fois moins.
Wow.
Comment voulez-vous qu'ils arrivent?
Oui, ouais, c'est ça, en c'est effet. Ça. Merci beaucoup à vous deux. Yannick Noiseux, chef chercheur principal pour le groupe de recherche interuniversitaire, bien sûr, et Serge Petitclerc, coordonnateur et porte-parole du collectif Point Québec sans pauvreté. Je vous dis merci beaucoup pour le bon et gros travail que vous faites, l'intérêt que vous avez pour les personnes assistées sociales.
À bientôt.
Merci à vous.
À bientôt.
Merci.
Merci.
Bonne soirée.
Merci.
Bonne
au revoir.
Soirée.
Vous écoutez Regards croisés avec Fulgence Blas et Arlette Farah.
Alors, dans la prochaine demi-heure, restez avec nous parce qu'on va parler à Pierre Vachon, donc pour le porte-parole, membre du conseil d'administration et cofondateur de la SAMS, donc dans un instant. Et on va partir en musique avec... Qu'est-ce qu'on mémorise en musique? Louis-Gabriel Posquier. Pierre Vacheron, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, nous allons parler avec vous. Bonjour, J'ai fait une présentation de vous en début d'émission. Donc, on va parler de la Société pour les arts en milieu de santé, dont vous êtes cofondateur.
Voilà.
Et aussi porte-parole. Et aussi, donc, vous allez nous expliquer d'abord un petit peu, commençons par le début, quelle est sa mission?
Oui, parfait.
Alors, je vous écoute.
Ah, vous m'écoutez.
Ah ben, c'est vous l'invité.
J'étais encore imprégné par la musique que vous avez fait entendre juste avant. Je trouve ça tellement beau que je me disais, voilà justement la mission de la SAMS. Comment la musique fait du bien.
Voilà.
Alors écoutez, la Société pour les arts en milieu de santé, qu'on abrège en la SAMS, comme on dit, eh bien, ça a commencé en 2009 et c'était précisément le but d'amener la musique à tout le monde, surtout pour les aînés qui sont dans des centres, soit dans des résidences, dans les CHSLD, qui sont des patients d'hôpitaux, ou encore dans des instituts en santé mentale, ou quoi que ce soit. Alors, on voulait, c'est souvent des gens qui sont isolés, qui n'ont plus accès à la musique, ni au concert, ni à la culture. Et on s'est dit, ben, c'est à nous, à ce moment-là, d'aller les visiter, de leur apporter le concert. Autrement dit, s'ils ne peuvent plus venir à la Place des Arts, c'est à la Place des Arts à aller vers eux. Alors, c'est comme ça qu'en 2009, la SAMS s'est donné cette mission-là. Et on est allé chercher tous les musiciens professionnels du Québec, parce que la SAMS opère un peu partout dans le Québec. Alors, on est allé chercher des musiciens professionnels, et c'est la particularité de la SAM, ce sont des musiciens vraiment professionnels qui font partie d'orchestres, comme l'Orchestre Métropolitain, Imusici ou d'autres ensembles, parfois même des chanteurs de l'Opéra de Montréal, et puis ils vont donner des concerts dans les différents centres pour les aînés, pour justement apporter un certain apaisement, un certain réconfort, un plaisir, en sachant que la musique a des effets, a un impact sur le corps, la santé à la fois physique et mentale. Et alors voilà, ça c'est la mission première, c'est d'amener la musique parce que à cause des impacts que ça a sur le corps.
Alors là, on parle de briser l'isolement, donc en même temps, dans ce que vous me racontez, c'est donc d'un côté on brise l'isolement et on donne aux personnes qui sont isolées, qui en ont besoin, à tous, le plaisir de la musique, d'entendre de la musique, et en même temps, on travaille avec des professionnels, donc ça fait vivre aussi, surtout en ces moments de pandémie, les professionnels qui ont bien du mal à se...
Oui,
se faire entendre.
Exactement, c'est ça, parce que on s'est dit, en temps de pandémie, il fallait être solidaire à la fois du milieu médical, parce que je pense que c'est très difficile pour tout le monde, et particulièrement pour les aînés qui sont isolés, aussi parfois fragiles et vulnérables.
Oui.
Alors donc, la musique, je pense, a encore des bienfaits, encore plus en ces temps de pandémie. Alors, il faut être solidaire du milieu médical, et la SAM s'est donné cette mission-là, mais aussi solidaire des musiciens, parce que les musiciens, c'est catastrophique pour eux. Ce sont des temps qui sont particulièrement difficiles puisqu'on ne peut plus aller au concert, on peut voir, en tout cas, du moins, beaucoup moins. Alors donc, on s'est dit qu'il fallait aider les musiciens aussi pour les aider à les soutenir et tout, en les faisant entendre, en les faisant jouer. Et c'est comme ça qu'on a décidé de réinventer nos formules de concert, de prendre un certain virage technologique, de profiter, en fait, des avancées technologiques pour, par exemple, les téléphones. Donc, on a des musiciens qui prennent un téléphone cellulaire.
On appelle les appels du cœur.
Oui, exactement. Et
fait
un appel à un genre. Oui, exactement. Alors, ça peut être une chanson, ça peut être un extrait instrumental. Ensuite, il y a les capsules du cœur aussi, qui sont des capsules de mini-concerts.
Alors, attendez, parce que vous allez trop vite. Revenons un peu sur les appels du cœur. Je veux des détails, on a du temps pour l'expliquer. Donc, ça se passe comment? Comment on fait? C'est-à-dire, on s'inscrit quelque part? Comment on fait pour avoir un appel, est-ce que c'est fait avec les CHSLD? Comment ça se passe?
Oui, écoutez, dans les centres, en général, il y a ce qu'on appelle des récréologues. Soit des récréologues, donc des gens qui sont là pour justement organiser des activités pour les gens qui sont leurs résidents. Soit les membres de la famille qui décident d'appeler la SAMS et qui disent j'aimerais que vous appeliez ma mère ou mon père, et puis voici le genre de musique qu'elle aime. Alors donc, des gens nous appellent, nous contactent, et nous, on leur demande justement quel genre de musique ils aiment. C'est beaucoup musique classique, la SAMS, mais aussi jazz, musique du monde, musique, j'allais dire olé olé, mais musique française, des sortes de musique. En fait, on essaie d'élargir beaucoup les styles musicaux. Alors, ce qui fait que, justement, donc, ils nous appellent et là, on organise, on demande à nos musiciens, à nos à nos musiciens professionnels. On en a pas loin de 300 musiciens qui œuvrent au sein de la SAMS. Et puis, on leur demande de dire, bon, on a eu telle demande et tout. Alors, donc, eux vont prendre les coordonnées, vont appeler la personne et vont leur offrir la musique. Alors,
En même temps, excusez-moi de vous couper, mais en même temps, oui. La musique et en même temps, une petite discussion aussi personnalisée avec la personne qui est au bout du fil.
Oui, exactement, aussi. Parce que l'un des aspects des concerts de la SAM, c'est l'aspect humain des choses.
Oui.
Et donc, le contact, le rapport humain est essentiel. On ne vient pas dans un centre. Avant, par exemple, on donnait un concert, mais on parlait aux résidents qui étaient là, on leur présentait la musique, on parlait, on disait quelques mots pour rendre ça plus convivial, plus amical, plus chaleureux et tout. Donc, pour briser vraiment le cadre du concert, qui peut parfois être neutre et anonyme. Alors, nous, c'est pas du tout dans cette optique. Là, on veut un contact personnel. Alors, on s'est dit qu'il fallait continuer dans la même veine. Et c'est pour ça que quand le musicien prend le téléphone, qu'il offre sa musique, ça lui donne aussi l'occasion de parler à la personne, de la questionner, cette personne-là, pour savoir pourquoi est-ce qu'elle aime cette musique-là. Et en ayant cette discussion personnalisée-là, eh bien, il y a tout
un... Ça fait un lien, ça crée un lien.
Ça fait un lien, exactement. Puis aussi, des souvenirs, de beaux souvenirs en général vont être ravivés. Et donc, c'est un moment, un beau moment d'humanité de chaleur humaine, en fait.
Suite à ça, j'ai une question, oui. Parce que c'est quand même, là, quand vous le faites de cette manière, quelles sont les réactions que vous avez pu entendre, tant de la personne à qui l'on envoie cette musique, que des musiciens qui font ces appels-là?
Écoutez...
Quels ressentis ils en ont eu, parce que c'était... quand c'était nouveau, quoi, c'était...
Oui, ben écoutez, d'abord, les gens qui reçoivent les concerts sont très émus. Alors, c'est souvent, les gens se mettent à pleurer tellement il y a une émotion, une surcharge émotive. Ils écoutent la musique, d'un coup, se sentent replongés dans un autre univers. Donc, c'est la beauté, en fait, qui a un impact sur eux, mais aussi pour les musiciens. Pour les musiciens, l'un des principes même de la musique, c'est la communication. Alors, donc, on apporte la musique et on sent qu'on change, qu'on a un impact sur la vie des gens qui nous reçoivent. Alors, c'est ça qui m'étonne à chaque fois, c'est combien les musiciens veulent redonner à la société, redonner à la communauté, et ils sont généreux. Et c'est cette générosité-là qui est tout à fait, qui est exemplaire, en fait. Et c'est ce qu'on voit dans ces ordres de petits moments, c'est des moments de grâce pour les deux. Alors, c'est un dialogue, mais ça enrichit autant le musicien que la personne, que le résident qui reçoit la musique.
C'est ça.
Alors ça, c'est les appels du cœur, mais il y a
aussi... capsules du cœur.
Oui, les capsules du cœur, c'est le même principe, mais en fait, c'est qu'on a voulu utiliser la technologie. et donc, des capsules qu'on met en ligne et qui sont sur notre site Internet à nous, à la SAMS. Et puis, les gens peuvent aller à leur convenance, aller écouter les capsules en ligne, de la façon dont ils veulent, le nombre de fois qu'ils veulent aussi. C'est assez court. En général, c'est une pièce, deux pièces, parfois trois pièces. Et puis, ça permet donc d'y aller à son rythme, tout ça. Fait que ça, c'est le phénomène en ligne. Et puis, on a aussi perpétué des concerts, parce que nous,
en direct.
Principe, c'est qu'on... oui, exactement, en direct, via les plateformes, la fameuse plateforme Zoom sur laquelle tout le monde est rendu, là. Alors, ce qui fait que ça permet donc d'amener aussi, de simuler, en fait, le cadre du concert, et puis de dire, bon, on a un cadre, et puis on peut voir les gens, on peut leur parler aussi, on peut être en interaction. Alors, c'est une autre façon, une autre avenue, en fait, pour rejoindre les gens. Et puis, voilà. Puis cet été, on a fait aussi des concerts au balcon, comme
c'est
on appelle.
C'est ça, vous appelez ça des concerts sérénades. Alors, ça, extrêmement agréable.
Ben voilà, il y a eu beaucoup de concerts santé cet été par différents organismes, dont le nôtre aussi. On se promenait, on allait dans les balcons et puis on jouait. Donc c'est comme Roméo et Juliette, mais bon, en musique.
Mais pas avec des instruments trop lourds à déplacer quand même.
Non, c'est ça. Ça se fait assez bien. Et puis,
je pense à la contrebasse ou un truc comme ça.
Ben des fois, vous seriez étonné. C'est peut-être pas 10 musiciens en même temps, mais disons qu'un duo ou un trio, ça se fait très, très, très bien. Et puis, ça apporte de la vie aux gens, ça apporte de la beauté, du bonheur, de la joie. Vous savez, la musique, c'est réjouissant. Hein?
Oui.
La musique, c'est rassembleur aussi. Et donc, les gens se sentent interpellés et ça s'adresse à tout le monde. C'est inclusif, la musique. Donc,
ah oui.
Tout s'efface devant la musique, tout s'efface. On écoute Et puis, on est là pour le bonheur et c'est un moment de partage, de communion qui s'installe entre des musiciens, des artistes et aussi des gens qui tout d'un coup se disent, ben, on a besoin de la musique. Puis quand on regarde ça, on se dit, c'est vrai que la musique est essentielle. Il n'y a pas un endroit où on va aujourd'hui, quelque part ou nulle part, oui. où il n'y a pas de musique. On a besoin de musique et il y a un effet tellement positif.
Quand on est chez soi, on la met, la musique. C'est ça qui est bien. Alors, j'ai mon collègue qui a une question, mais juste avant, je voulais préciser qu'il y a eu quand même, depuis la pandémie, il y a eu 660 prestations musicales qui ont été offertes.
Exactement.
Pas mal, hein?
Oui, c'est quand même... Eh bien, écoutez, je vous dirais qu'on fait en temps normal à peu près 800 concerts par année. Donc, ça, c'est juste Montréal. Alors, on se promène, et puis donc, on offre énormément de concerts. On se promène dans la province partout. Et puis aussi, ben, je vous le disais au début, on veut être solidaire des musiciens. On veut dire aux musiciens, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas perdre espoir. Vous avez une mission sociale, une mission santé aussi, qui est essentielle. Alors, on a besoin de vous. C'est pour ça qu'on s'est donné cette mission-là, vraiment, de perpétuer la tradition ici.
D'accord. Alors, ta question.
Oui, bonjour, Pierre. Pour les artistes, ouais, les artistes qui nous écoutent, qui ne sont pas encore membres de votre organisme, SAMS, comment ils font pour...
Écoutez, ils nous écrivent, ils vont sur le site de SAMS, la SAMS, donc c'est samsanté.org. Ils vont sur le site et là, à ce moment-là, ils vont pouvoir prendre contact avec nous et notre directrice artistique, qui est aussi notre directrice générale, va les rencontrer, va leur parler, on va les entendre, etc. On va voir un peu si y a des atomes crochus et tout le reste. Et puis voilà. Donc, c'est très, très simple comme processus.
Oui.
Les gens n'ont qu'à se manifester à venir. Le but premier, je voudrais, ce sont des musiciens professionnels. Donc, c'est la mission de la SAMS. Alors, donc, contactez-nous. Même chose pour les gens qui voudraient offrir des concerts, qui voudraient dire, ben, j'aimerais ça, moi, faire un petit don pour que je puisse réaliser un concert et offrir ça à des gens que je connais, etc. Ils ont à juste aller sur le site et puis on recueille des dons, quelle que soit la valeur, pour réaliser tous ces concerts et nous assurer que la musique, effectivement, atteigne les gens dans toutes les résidences, tous les lieux et ça partout au Québec.
Alors, il faut dire que c'est samsanté.org et puis
voilà.
On peut écrire au info@samsanté.org, samsanté.org. Et parlons un petit peu pour le temps des fêtes. Il y a un grand concert virtuel qui va être... offert.
Exactement. Tout à fait. Écoutez, les 25 et les 26, on va réunir une trentaine de nos musiciens qui vont gracieusement donner une prestation. On va demander aux gens dans les centres quels sont leurs airs du temps des fêtes, leurs chansons de Noël, leurs mélodies, etc. Et on va leur offrir, on va capter, on va enregistrer ces moments musicaux-là et on va les envoyer dans tous les centres, partout où ils sont, pour les diffuser en ligne les 25 et 26 décembre prochain.
Quelle belle idée.
Effectivement. Oui, pour apporter un peu de chaleur humaine aussi. Le temps des fêtes est particulièrement difficile pour bien des gens et on s'est dit que la musique était particulièrement nécessaire, justement. Et là aussi, ben, écoutez, si vous pouvez nous aider à réaliser ces enregistrements, etc., on fait un appel de dons pour les gens qui aimeraient contribuer, qui aimeraient offrir des concerts, la même chose. Alors, c'est le même principe, vous allez sur le site, mais c'est un concert de Noël virtuel et puis qu'on offre en solidarité au milieu médical et aussi au milieu musical. On est là et il faut que ça continue.
Bien. Alors, juste dans les 5 dernières minutes qui nous sont imparties, je voudrais en savoir un petit peu plus en ce qui vous concerne. Qu'est-ce qui vous a amené à fonder la SAMS?
Oui, ben écoutez, j'ai toujours pensé que moi, j'ai une vie assez privilégiée. Je suis musicien, je suis musicologue.
Oui.
Et j'ai toujours pensé qu'il me fallait redonner à la communauté. Et c'est comme ça que quand deux de mes collègues m'ont approché pour dire on devrait fonder une société comme ça. C'est une société qui existe à travers le Canada. Il y en a dans chacune des provinces. C'est parti de Vancouver. Et donc, l'une des membres fondatrices, ben, m'a dit, est-ce que ça t'intéresse? Je lui ai dit oui, tout à fait. Et moi, je travaille à l'opération Grand Montréal.
Oui.
Et donc, je me suis dit, bah tiens, le chant est quelque chose, les gens sont particulièrement sensibles au chant. Alors, ça serait intéressant que des chanteurs d'opéra, des chanteurs lyriques puissent venir, puissent faire leur contribuer. Alors, c'était l'appel, en fait, de contribuer, d'être un bon citoyen, si on peut dire. Et c'est comme ça que je me disais que la musique est tellement un outil extraordinaire que j'avais un devoir, une responsabilité d'amener la musique partout, de contaminer le plus grand nombre et surtout d'amener les gens et de ceux qui sont privés de musique. De leur redonner cette musique, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont privés. Et moi, je le vois au quotidien, à quel point ça change et ça transforme la musique. Et c'est ça le message. Et c'est pour ça, quand on m'a appelé en 2009, j'ai dit oui, tout à fait. Je saute dans l'aventure. Il faut créer cette société-là, parce qu'on transforme les gens, on transforme la société, mais pour le meilleur aussi.
Bien
la
sûr.
Musique fait ressortir le meilleur des gens. Alors, c'est comme ça. Puis on le voit à chaque concert qu'on donne. On voit la réaction des gens, à quel point c'est essentiel, la musique. Et la présence des musiciens, cette présence humaine là aussi via la musique, via la présence des musiciens. Alors voilà, c'est ça qui a été l'appel premier.
Et puis aussi pour ouvrir, enfin, en tout cas moi c'est, je trouve, sur la musique classique aussi,
oui.
De la faire aller dans la rue, si je peux me permettre de le dire comme ça.
Vous avez raison, et ça j'y crois beaucoup aussi, cette démocratisation de la musique classique. La musique classique, elle est pour tout le monde, et elle doit être partout, elle doit retrouver, elle doit reprendre sa place partout, dans la rue, etc. Ce n'est pas une musique d'élite, pas du tout, c'est un faux concept. Alors donc, on a une mission, on a une responsabilité aussi d'amener cette musique et de faire entendre les beautés de ce monde. Et les gens sont étonnés de se rendre compte qu'ils connaissent davantage la musique classique qu'ils le pensent. Ils ne savaient pas que c'était de la musique classique, mais que oui, c'est de la musique classique et tout. Alors, c'est toujours des belles découvertes auxquelles on assiste. Et puis, je vous parlais de l'impact de la musique. Quand on voit des gens qui sont pris d'Alzheimer et qui sont vraiment, vraiment recroquevillés dans leur monde et qui, tout d'un coup, à l'écoute de la musique, se reprennent vie. D'un coup, on retrouve une expression, se reconnecte au groupe et tout. Ça, là, c'est des moments de grâce. Alors, juste pour ça, ça vaut la peine de continuer.
Ah oui, c'est extraordinaire. Le message que peut faire passer la musique au-delà de la parole, de pouvoir
oui,
parler.
Exactement. Exactement, vous avez raison. La parole, des fois, c'est un peu difficile, alors que la musique, c'est un langage universel. On ne le dira jamais assez.
Oui.
Et donc, tout le monde peut comprendre la musique. Tout le monde peut accueillir la musique. Et c'est ce qu'on fait.
Et voilà. Vous avez été passionnant et passionné dans cette entrevue, comme
oui,
d'habitude, il me semble. Mais en tout cas, c'est vrai que ça donne l'élan de cette musique, de l'entendre, d'avoir le plaisir. Je trouve encore plus en ce moment où on ne peut plus embrasser l'autre, où on ne peut plus tenir l'autre. Il faut au moins être embrassé par la musique.
Oui, exactement. Vous avez raison. Et c'est pour ça qu'il faut... je fais un appel à tous. Aidez-nous à ce qu'on continue notre mission à apporter la musique. Et cette musique classique, cette musique variée aussi, eh bien, nos aînés adorent cette musique. Ils ont besoin de cette musique. C'est la musique de leur enfance. Alors, on ne peut pas leur priver de cette musique qui a été si importante pour leur vie. Alors, il faut leur apporter. C'est pour ça qu'on dit aux gens, aidez-nous à leur apporter ne serait-ce que par $1 que vous nous donnez, ou même un peu plus, oui, on peut faire des choses avec ça, on peut faire du millage.
Si le dollar est multiplié par des millions de personnes, c'est bienvenu.
Voilà. Oui, et chacun contribue aussi au bien-être de notre société. On a une responsabilité et on fait un effort. Et donc, on est tous solidaires de la société, et surtout nos aînés qui nous ont tellement aidés, qui nous ont tellement aimés, à notre tour maintenant de leur offrir un petit baume, un réconfort par le biais de la musique.
Alors, on répète, pour un don, c'est samsante.org, samsante.org, et on peut aussi contacter, si vous voulez offrir à vos aînés ce moment magique de musique, au téléphone ou autrement, eh bien, info@samsante.org. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été un grand plaisir de vous parler.
Merci à vous. Au
merci,
revoir.
Pierre. Merci, Pierre.
Au plaisir.
Au revoir.
À bientôt.
Grâce à elle, je vole, et elle me recommence. Me réveille, me sonne, bellissime me brise. Grâce à elle, je vole, je vole, je vole. Je vole, vole. Ma chair cède, mon cœur bat. Je nais d'un coup d'aile, souveraine et belle. Elle embellit mon ombre. Grâce à elle, je vole, je vole, je vole. Je vole, vole. Sans l'alibi des mots, sous les paupières de ses silences, ses cris au son du sang, souffle et rêve. Grâce à elle, je vole, je vole, je vole. Je vole, vole. Grâce à elle, je vole, je vole, je vole. Je m'accorde à elle et je risque les mots d'amour. À elle, je dois cet état de grâce. À elle, je vole, je vole, je vole. Je vole, vole. À elle, je vole, je vole, je vole.
Nous sommes à la fin de cette émission. J'ai pas présenté, c'était Jim Corcoran dans le titre, la chanson Je vole. Voilà. C'était très beau. Moi aussi, j'étais comme tout à l'heure en entendant la musique et j'étais grâce en train de l'écouter. Puis grâce à elle, j'étais en train de l'écouter et puis je rêvais dessus.
Ouais, c'est.
C'était une très belle chanson.
Très belle mélodie.
Ça finissait en douceur. Bon, d'ailleurs, on est à la fin de
très belle mélodie.
Cette émission.
On va dire merci à nos invités. Avant de dire merci à notre complice à la console, Maurice Bolduc.
Oui.
On dit merci à Yannick Noiseux, qui est professeur et chercheur principal pour le groupe de recherche interuniversitaire. Voilà, comment on appelle ça. Ça, c'est intéressant. Pour pourquoi les personnes assistées sociales ne trouvent pas d'emploi. Et Serge Petitclerc, qui est coordonnateur et porte-parole du collectif Point Québec sans pauvreté. Merci à vous deux.
Et puis on dit merci aussi à Pierre Vachon.
Pierre Vachon.
On pense aussi à la SAMS, donc Société pour les arts en milieu de santé. Ouais. N'oubliez pas.
Merci à nos auditeurs. Et puis bon, ben,
merci,
prenez soin de vous. Bonne soirée. Et puis bon,
à demain.
Et toi, on se voit demain.
Entendu.
Allez.
À demain. Au revoir.
Je m'attendais pas à cette réponse là. Bonne soirée.